Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du Carnet de Région, le magazine collaboratif des radios associatives du Languedoc Roussillon. Cette semaine, et pour la dernière fois avant une prochaine fois, c'est Radio Aviva qui monte et enrobe les sujets glanés dans toute la région. À partir de la semaine prochaine et pour 4 numéros consécutifs, ce sera Radio Escapade qui prendra les rênes de ce magazine. En attendant, au programme d'aujourd'hui, on aura des chevaliers occitans à Carcassonne, on passera un coup de fil à Astérix et on fera du journalisme à la Malienne dans les Cévennes. Pour être plus clair et plus précis, on commencera avec Radio Pays d'Hérault pour comprendre la mobilisation des sages-femmes qui se battent en ce moment pour sauver l'accouchement à domicile. Radio FM Plus nous annoncera ensuite la prochaine collecte de la Banque Alimentaire de l'Hérault. Avec Radio Escapade, on aura un exemple de coopération entre les médias français et maliens avec l'interview de Mamadou Barry, lui-même journaliste malien et travaillant dans les Cévennes. Et puis l'invité surprise dans ce carnet de région, ce sera Astérix, à l'occasion des 35e aventures de l'irréductible Gaulois qui sortent ce jeudi 24 octobre, on se demandera qui se cache derrière sa voix en dessin animé. Cédric Combet de RCF Maglone Hérault lèvera le mystère pour nous dans une interview haute en couleur. La première fête médiévale à Carcassonne avait lieu le week-end dernier. C'est RCF Pays d'Aude qui nous offre ce beau voyage dans le temps. Pour clôturer ce carnet de région, Radio Aviva vous fait passer quelques minutes avec la présentatrice Daniela Lombroso et la maire de Montpellier, Hélène Mandrou, pour annoncer la venue de France 2 à Montpellier pour la prochaine fête de la musique. Le carnet de région, c'est parti. Les sages-femmes se mobilisent partout en France ce week-end pour sauver l'accouchement à domicile. En cause, la loi Kouchner de 2002, ce texte oblige tous les praticiens de santé, dont les sages-femmes, à avoir une assurance. Depuis, les assureurs se sont désengagés de couvrir le risque dit accouchement à domicile. Aujourd'hui, le Conseil de l'Ordre des sages-femmes vient de rappeler les risques d'une naissance hors hôpital. En conséquence, les sages-femmes sont contraintes de souscrire une assurance plus onéreuse, un surcoût difficile à supporter. Doris Nadel, sage-femme libérale, praticienne de naissance à domicile, exerce dans l'Hérault depuis 38 ans. Elle répond au micro d'Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault.
Alors, les assurances, il n'y a aucune assurance qui va nous assurer, mais quand on saisit le bureau central de tarification, il nous propose une assurance qui est de l'ordre de 19 000 euros au minimum, voire 22 000 euros cette année, qui est à peu près, et quand on sait qu'une sage-femme, le revenu moyen d'une sage-femme, c'est 24 000 euros en moyenne par an. Donc, la problématique, c'est que le Bureau central de tarification indexe cette prime d'assurance sur le risque obstétrique en général, c'est-à-dire c'est le tarif que payent les gynécologues obstétriciens, alors que nous n'accueillons que des femmes à bas risque. Les femmes qui présentent des risques particuliers ne peuvent pas accoucher à domicile. Donc, il y a une éligibilité très stricte des patientes qui peuvent accoucher à domicile. Ce n'est pas tout le monde. Donc, les risques ne sont pas du tout les mêmes. D'autant plus qu'on sait qu'en Europe, les sages-femmes pratiquent les accouchements à domicile. L'accouchement à domicile est intégré dans l'offre de soins et le tarif des assurances ne dépasse pas 1500 euros par an pour les accouchements à domicile par les sages-femmes au niveau des assurances.
Donc aujourd'hui, c'est ce que vous demandez, un abaissement possible de la tarification.
On demande surtout à l'État de prendre ses responsabilités et de permettre aux sages-femmes d'avoir une assurance qui correspond non seulement à leur niveau de risque, mais aussi à leurs revenus financiers. Et d'autre part, on demande aussi que la loi qui a été appliquée pour les médecins, c'est-à-dire que les médecins obstétriciens ont la possibilité d'avoir une aide de la caisse d'assurance maladie qui leur verse une prime pour les aider à payer leur assurance. Et nous, on demande la même chose. Il n'y a pas de raison qu'il y ait cette discrimination, j'ose le dire, de sexe concernant la responsabilité civile de la pratique médicale.
Doris Nadel, sage-femme à domicile dans l'Hérault. Elles ne sont plus que 5 dans le département contre 12 il y a une dizaine d'années. Depuis cette année, leur métier est lourdement menacé, notamment par une amende de 45 000 euros et une radiation. Les syndicats et les associations de sages-femmes appellent à une journée de mobilisation dans toute la France. En région, rendez-vous à Montpellier ce samedi 26 octobre, place de la Comédie à 14h30.
Carnet de région. L'actualité en langue de Croussillon.
Comme chaque année, la Banque alimentaire de l'Hérault organise une grande collecte. En 2012, cet organisme a permis de redistribuer 2173 tonnes de denrées alimentaires dans notre département. Mais ces denrées ne tombent pas du ciel. Certaines proviennent de dons de l'État ou de l'Europe, d'autres sont récupérées dans les grandes et moyennes surfaces. Enfin, de leur côté, les collectes représentent à elles seules près de 10% de ces ressources. Ainsi, les 29 et 30 novembre prochains, la Banque alimentaire de l'Hérault compte sur l'aide des bénévoles pour collecter un maximum de denrées alimentaires. Au micro de Maxine Triano de Radio FM+, Alain Bérézia, le directeur de la Banque alimentaire de l'Hérault, rappelle le rôle de son association.
La finalité des banques alimentaires est très simple. Il y a énormément de gaspillage alimentaire. On estime qu'un tiers de la production de denrées alimentaires est gaspillée tout au long de la chaîne, de la production jusqu'à nos réfrigérateurs personnels. En face, il y a plus de 8 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Il y en a 2 millions qui sont en situation de malnutrition ou de sous-nutrition. Donc le rôle des banques alimentaires, c'est de récolter des denrées qui nous sont fournis gratuitement, de les trier et de les redistribuer à d'autres associations ou des centres communaux d'action sociale. Donc nous sommes un petit peu une plateforme, un grossiste, une association au service d'autres associations, mais nous ne distribuons pas directement aux personnes démunies, au contraire des restaurants du cœur. La distribution aux personnes démunies se fait par les centres communaux d'action sociale, par des associations. Les principales sources d'approvisionnement de la Banque alimentaire de l'Hérault sont des dons venant de l'Union européenne et du gouvernement français. Donc ce sont essentiellement des conserves, c'est du lait longue conservation, ce sont des surgelés. Une source essentielle de notre approvisionnement, ce sont les dons des grandes surfaces. Pourquoi ? Quand vous faites vos courses, vous n'achetez pas un filet de fruits dans lequel un fruit est abîmé. Le magasin ne va pas s'amuser à reconditionner ce filet de fruits. Ce filet de fruits est donc invendable, mais une fois qu'on a enlevé le fruit abîmé, il est parfaitement consommable. Vous n'achetez pas de yaourt à DLC trop court. Donc notre mission, tous les matins, 12 mois sur 12, 6 jours sur 7, c'est d'envoyer des camions frigo dans les grandes surfaces et moyennes surfaces, de récupérer ces produits, nous les ramenons à l'entrepôt, nous les trions et nous les redistribuons en fin de matinée. Et simplement sur cette ramasse de produits dans les grandes surfaces, sur Montpellier, l'année dernière, c'est 1400 tonnes que nous avons récupérées, qui ont évité la destruction et que nous avons pu redistribuer à nos partenaires. Nous avons comme partenaires 123 communes et associations et cette action permet d'aider 8500 personnes démunies du département.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Mamoudou Barry a 34 ans. Il est malien, journaliste en radio associative depuis 2003 et à Tsiwara FM, radio située à Kadiolo, au sud du Mali, depuis 2012. Dans le cadre d'un échange entre radio associative française et malienne, il est venu un mois dans les Cévennes pour observer mais aussi participer à la vie d'une radio associative française. Organisée par le CNRA, la Confédération Nationale des Radios Associatives, pour le côté français, et par l'URTEL, l'Union des Radiodiffusions et Télévisions Libres du Mali pour le côté malien. Ce jumelage radiophonique a pour but le partage d'expériences et les échanges culturels entre les deux pays. Trois radios en France ont accueilli un journaliste malien et donc du côté de Radio Escapade, il s'agit de Mamoudou Barry. Il explique à Rémi Goujon les différences entre le travail de journaliste en France et au Mali.
Le journal chez nous, c'est un peu différent comme vous le faites ici parce que vous avez accès facile à l'Internet. Vous utilisez des sites, ainsi de suite. Mais chez nous, accéder à l'Internet, c'est tout un travail. C'est pas facile, parce que nous avons, comme je l'ai dit, Kadiolo, c'est une ville comme Saint-Hippolyte. Nous n'avons qu'une seule médiathèque, un seul cybercafé où on peut accéder à l'Internet. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous écoutons la radio nationale d'abord, et ensuite la radio France Internationale RFI. Ensuite, BBC. Et voilà, c'est l'ensemble de ces informations-là que nous essayons de traiter, c'est-à-dire prendre ce que nous voulons et laisser ce qui ne nous intéresse pas. Parce qu'en matière de radio, comme vous le savez avec moi, il faut voir ce qui est proche des auditeurs, de tes auditeurs. Et par exemple, si j'écoute BBC, je ne vais pas tout de suite parler d'un accident qui a fait 20 morts en France. Vous m'excusez, ce n'est pas parce que ce n'est pas important, mais en réalité, pour un auditeur de Kadiolo dont certains ne connaissent même pas la capitale, quand il leur parle de la France, ça ne lui dit rien. Et par contre, si je parle d'une attaque de bandits qui a eu lieu entre Kadiolo et Zegua, c'est deux villes distantes de 13 km qui a fait 2 morts. Mais tout de suite, l'auditeur a envie de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, cette attaque-là, ça concernait qui? Parce que j'ai mes frères, peut-être un ami ou quelqu'un qui partait sur cette ville-là ce matin. Est-ce que ce n'est pas lui? Bon, liberté d'expression. C'est vrai que je n'ai pas fait une école de journalisme, mais nous avons des formations organisées par l'Union des radios et télévisions libres du Mali, ou encore par des ONG. Parce que vous savez, chez nous, les ONG interviennent beaucoup dans le domaine, dans plusieurs domaines. Ça peut être dans le cadre du respect des droits humains. Et qu'est-ce que le Mali, la constitution malienne dit par rapport à ça? Et quelle doit être la position d'un journaliste face à tout ça? Il y a des ONG qui travaillent dans ce sens-là. Et donc, nous avons chaque fois la chance d'être formés à fur et à mesure.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.
Et à présent, une petite devinette. Je suis petit, courageux, voire batailleur. Je porte un casque à ailettes, une belle paire de moustaches. Je suis... Astérix, bien sûr, vous l'aurez compris, le 35e album de l'irréductible Gaulois est sorti hier. Il s'intitule Astérix chez les Pictes, comprenez les Écossais. Grande nouveauté, le dessinateur d'origine Uderzo cède la plume à Didier Conrad, le co-créateur de Bob Marone, parodie de Bob Moran. Et d'après les premières critiques, le passage de relais semble réussi. Astérix, c'est donc désormais des bandes dessinées, des films et depuis quelque temps déjà des dessins animés. Tout le monde a encore en tête la petite voix nasillarde mais sage de l'Astérix animé, eh bien Cédric Combet de RCF Maguelon Hérault a retrouvé pour nous qui se cache derrière.
Astérix, bonjour.
Oui, bonjour partout à qui.
Alors,
en forme.
Oui, je suis en forme, Astérix. Alors, Astérix, cela fait longtemps quand vous n'avez pas vu en bande dessinée, pourquoi?
Ah, ben, vous savez, de temps en temps, je prends un peu de repos. Ah, c'est tout à fait normal. Il fallait que je m'occupe un petit peu d'Obélix.
D'accord, et puis d'Idéfix aussi, hein.
Oui.
Qu'est-ce qui fait votre succès, Astérix?
Ah, ben, écoutez, tout d'abord, je suis gaulois, n'oublions pas. Je représente à peu près vraiment un peuple très important. C'est quand même ce qui est devenu la France. Mais de toute manière, un Gaulois, imbattable. Et puis j'ai débarrassé tout le monde. J'ai débarrassé des Romains. Alors non, c'est un petit personnage important. Alors maintenant, je devrais être décoré. D'ailleurs, je me demande pourquoi je n'ai pas été. Tais-toi. Ah bah, vous avez des fixes maintenant. Oh.
Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est bien sûr la voix officielle de Astérix, c'est bien sûr Roger Carrel qui est avec nous. Roger Carrel, donc rebonjour.
Rebonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Je vous en prie, c'est la moindre des choses.
Pour parler
c'est
donc
un
de...
personnage que j'affecte, très affectueux, que j'aime beaucoup.
Oui.
Et moi, c'est vous savez, c'est des personnages qui ont, il y a tellement d'années que je vis avec eux, que vraiment c'est la famille. Hein.
Comment on entre dans la peau du personnage de Astérix avec cette voix?
À l'époque, Uderzo et Goscinny, les créateurs du personnage de bande dessinée, avaient décidé d'en faire un dessin animé, mais alors ils se disaient quelle voix on va lui donner. Alors ils m'avaient fait venir parce qu'à ce moment-là je faisais déjà beaucoup de... J'étais au théâtre, au cinéma, au doublage, et ils m'avaient dit, comme tu changes souvent de voix, qu'est-ce que tu verrais sur ce personnage? Alors il me dit, attention, il est petit, il est bagarreur, ça, mais il faut qu'il soit quand même sympathique. Alors il faut qu'il reste très très sympa en étant le petit bagarreur, le petit hargneux, le petit qui va faire équipe avec Obélix. Alors on avait essayé tout ça, puis alors j'avais fini par prendre cette voix de petit personnage comme ça. Il m'a dit, oh oui, ça m'a l'air très bien. On a fait l'essai et ils ont adopté.
Ah, ça sent le romain par ici.
Astérix, c'est beaucoup d'albums. D'ailleurs, on pourrait le relier quasiment à Tintin. Pour vous, il n'y a pas un meilleur album qu'un autre?
C'est-à-dire qu'il faut bien dire qu'il y avait des créateurs qui étaient quand même exceptionnels. Il faut dire que René Goscinny avait une imagination tellement fertile, tellement formidable. Et d'ailleurs, Uderzo a été extrêmement courageux de reprendre la suite et d'essayer de... vraiment d'être à la hauteur. Maintenant, je ne sais pas, les nouveaux ont l'air de jeunes gens talentueux, mais moi, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas du tout. Mais ça sera avec plaisir que je vais le recevoir.
Juste avant de se quitter, que souhaite Winnie à Astérix pour la sortie?
Oh bah écoutez, moi ce que je souhaite, c'est qu'il trouve du miel et qu'il m'en apporte.
Et puis sinon, il y a Alf aussi qui peut souhaiter quelque chose.
Eh oui. Ah ben j'ai entendu, j'écoutais l'émission, alors nous j'ai entendu. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que j'aime, c'est les petits chats.
Merci, Roger Carrel.
Mais je vous en prie.
Quand l'appétit va, tout va. Pour la santé, il n'y a que ça. La pire émotion, c'est quand on a son estomac dans les talons.
Les petits poivres et les bons gros, sur un rythme d'allégro. Pour manger et boire, vont jouer des mâchoires. Quand l'appétit va, tout va.
Roger Carrel était l'invité de Cédric Combé, Astérix chez les Pictes, disponible dans toutes les bonnes librairies de la région Languedoc depuis hier et à la télévision. Nous le retrouverons le 26 novembre prochain avec justement la voix de Roger Carrel pour Astérix, le domaine des dieux.
Carnet de région.
Héros.
Aude.
Gare.
Héros.
Pyrénées-Orientales.
Gare.
Lozère. Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
La première fête médiévale, Cascarie des Damées Carcasses, avait lieu le week-end dernier à Carcassonne. 19 associations avaient été invitées pour l'occasion. Au programme, campement dans les lys, chevaliers, troubadours et repas médiéval, entre autres. Au terme des festivités, Éric Boyer de RCF Pays d'Aude a rencontré une famille de Villepinte qui fait partie de l'association Au cœur des légendes. Mais avant de les retrouver, ambiance sur place.
On est venu en famille tout d'abord, et puis ensuite on est venu avec d'autres associations, et on a participé, notamment j'ai animé le banquet médiéval hier soir, là on a fait quelques démonstrations de combat, et puis voilà.
Donc vous étiez impliqué, l'association, vous-même, dans cette première fête médiévale à Carcassonne?
Voilà, tout à fait.
Alors pour vous, le bilan, il est comment, là, en partant, justement?
Mais le bilan, à partir du moment où il y a du médiéval, ça peut être que positif, obligatoirement. C'est vrai que c'est quelque chose bon, qu'on a laissé de côté depuis plusieurs années.
C'était attendu, hein, par tout le monde, un petit peu. Mais
c'est attendu par tout le monde, et puis c'est vrai qu'ensuite, bon... il y a une demande, puis il y a une base culturelle relativement importante sur le secteur. Donc il ne faut pas avoir peur de faire passer cette culture, et il ne faut pas avoir peur de nos origines, loin de là.
Donc toute la famille est habillée là, toute la famille a participé, c'est votre épouse peut-être
Mon épouse.
Je suis son épouse, donc voilà, je le suis partout, enfin partout, ou presque. Voilà, et puis on a les enfants qui s'y mettent aussi, notamment les garçons, qui font aussi de l'escrime médiéval.
Les garçons, ça vous a plu?
Oui. Oui, plutôt.
C'était la première fois que tu fais ça?
Non, pas la première.
Vous l'avez déjà fait, mais pas à Carcassonne?
Oui, puisqu'on fait ça sur l'année 2013, on a fait à peu près une douzaine de sorties. Donc on a fait notamment la fête médiévale d'Issel, Fandeil, Penautier. Le week-end dernier, nous étions pendant deux jours à l'Oracle Grand. Nous avons essayé de faire revivre l'école de chevalerie de l'Oracle Grand. Donc on a organisé un stage combat donc sur deux jours avec une vingtaine de participants. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un jeu, ce ne sont pas des déguisements, ce ne sont pas nous nous costumons, mais par contre, nous recherchons dans des sources pour essayer d'être au plus proche de la réalité.
C'est de la reconstitution.
C'est de la reconstitution, et à côté de ça, c'est un art de vivre. On apprend le courage, on apprend l'honneur, notamment en combat, on apprend le respect de l'autre, et on essaie de faire revivre Paradj, que tout le monde connaît ici en Occitanie, et notamment au XIIIe siècle. Quoi.
C'est vraiment impressionnant, j'ai fait les lys, on ne les fait jamais les lys, avec des campements comme ça, et on voit que c'est monumental, la cité à côté, on a une autre perspective du lieu finalement. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça.
Ah oui, tout à fait. Moi je vais vous dire même mieux, hier soir, donc, quand j'ai fini d'animer le banquet médiéval, je me suis retrouvé seul avec mon costume et mon bâton de pèlerin dans les ruelles de la cité de Carcassonne à 1h du matin. Et alors j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, c'était magique. Mais j'étais seul avec mon bâton de pèlerin en traversant les ruelles de la cité à 1h du matin. Quoi. C'était vraiment extraordinaire. On sentait une atmosphère, on sentait des âmes qui erraient. Et puis c'était superbe.
Donc, l'an prochain, vous souhaitez qu'il y ait encore une fête médiévale ici à Carcas?
Mais il faut qu'il y en ait partout. Il faut qu'il y en ait partout, sur tous les lieux ici que l'on connaît, dans le Lauragais et autres. Bon, c'est vrai que le Lauragais, c'était un grand lieu de passage entre la maison de Barcelone, entre l'Italie. On était les premiers à mettre en place, je veux dire, la médecine et le droit romain. Donc, il faut que ça reste comme ça. Il faut que ça reste ouvert et qu'on vive justement avec toute cette culture qu'on a. Regardez, ils ont essayé de nous tuer, ils ont essayé de massacrer tous ces chevaliers venus du Nord. 800 ans après, on parle encore occitan.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Mardi 22 octobre, à la Maison des Relations Internationales de Montpellier, avait lieu une conférence de presse pour annoncer la venue de France 2 sur la place de la Comédie. Daniela Lombroso, présentatrice et productrice, était présente pour défendre le choix de la place de la Comédie par la chaîne publique comme théâtre de son grand direct pour la prochaine fête de la musique. Elle a répondu aux questions de Liliane Drey pour Radio Aviva, qui a ensuite recueilli les impressions d'Hélène Mandrou sur la venue de France 2. On écoute ça tout de suite.
Daniela Lombroso, bonjour. Qu'est-ce qui a motivé le choix de Montpellier pour cette émission La Fête de la Musique sur France 2?
Ce qui a motivé le choix de Montpellier, c'est d'abord parce que nous cherchions une ville dans le sud de la France, plutôt ensoleillée évidemment, avec un état d'esprit assez festif, et on a pensé que Montpellier, vu que c'est une ville étudiante, qui a 70 000 étudiants, qui a beaucoup de jeunes, qui a du soleil, qui a une culture comme ça musicale, de guitare, de gypsy, de différentes choses qui nous plaisaient bien, on a choisi Montpellier.
Il y a un thème particulier ?
Non, il n'y a pas de thème particulier, ça sera du soleil et des tubes. L'idée, c'est vraiment de faire une fête de la musique pour tous, très populaire, très multigénérationnelle, avec toutes les musiques autour de l'été, les tubes, le soleil, danser, faire la fête, voilà. Ce n'est pas une émission qui se prend la tête. C'est plutôt l'idée, et je crois qu'on en a besoin, de faire la fête tous ensemble, de faire une grande fête populaire. Voilà. Tous les artistes qui sont voilà, en tête des ventes ou qui plaisent au public en ce moment. Donc on pense à différents artistes. Aujourd'hui, rien n'est acté, mais aucun n'a encore été invité, etc. Mais on pense à des artistes comme Matt Pokora, Christophe Maé, Patrick Bruel, Nolwenn Leroy, enfin voilà, différents Johnny Hallyday, pourquoi pas. Différents artistes qui sont aimés du public et qui font voilà, le patrimoine de la chanson française. Alors l'an dernier, c'était Patrick Sébastien et Aïda Twiri. Ça s'est très très bien passé. Moi, j'étais vraiment ravie de ce mélange. S'ils sont d'accord, j'ai très envie de continuer avec eux, mais c'est un peu trop tôt encore pour le dire. Déjà, tout ce qui est équipe technique, équipe de production, tous les gens qui montent la scène, etc., on s'approche quand même de 200 personnes. Hein. Ouais. Et puis, voilà, pour le reste, c'est un travail qui commence très tôt dans l'année. Vous voyez, là, on a passé déjà quelques mois à chercher la ville, à voir avec, une fois qu'on a arrêté notre choix, à voir différents points importants avec la ville de Montpellier. Là, on va commencer à attaquer toute la partie technique, donc pour trouver l'emplacement, pour voir de quelle manière on va se positionner, etc. On va faire plusieurs repérages avec le réalisateur qui est Tristan Carnet, qui est le même réalisateur que l'an dernier, qui est aussi le réalisateur de Danse avec les Stars, The Voice, enfin, voilà. Et à partir de là, on va avancer sur la partie technique, implantation, jusqu'à janvier, février. Et après, on va commencer vraiment le contenu, le choix des artistes.
Vous avez parlé d'un coût très élevé pour cette production. Vous allez donc demander un apport des collectivités ?
Oui, on va demander, comme on le fait chaque année, une aide des collectivités locales qui va être à peu près du même montant que les années précédentes, j'imagine. Pour l'instant, c'est encore voilà, en cours de fabrication parce qu'on n'a pas complètement bouclé le budget, parce qu'on a beaucoup de choses qu'on ignore encore sur un certain nombre de coûts, mais dès qu'on l'aura fait, on saura exactement où on va.
Madame le maire, bonjour. Un événement aussi fantastique que la fête de la musique sur la place de la Comédie à Montpellier, ça a un coût pour la collectivité?
Non, Madame Lombroso demande 400 000 euros. Les 400 000 euros, la ville va participer bien évidemment. La région devrait également participer. Par exemple, le Tour de France a 200 000 euros. Mais quand vous savez que derrière, vous avez 600 millions de spectateurs, je veux dire, c'est le rapport est absolument extraordinaire d'avoir un événement aussi important. Puis moi, ce qui m'intéresse dans des événements comme par exemple cette année le centième édition du Tour de France, comme là cette fête de la musique, ce sont des milliers de personnes qui sont ensemble, toutes générations confondues, quelle que soit la couche sociale, que vous soyez un PDG ou un chômeur, tout le monde participe au même événement. Et ça, pour moi, c'est le vivre ensemble, c'est là que vous le trouvez. C'est dans des grands événements sportifs ou dans des grands événements culturels. Ça, pour moi, c'est l'avenir de Montpellier. Montpellier, c'est le vivre ensemble. C'est pour ça que je suis très fière d'avoir de grands événements comme ça qui se passent à Montpellier.
Montpellier, parce que c'est notre esprit même de Montpellier.
Vous avez dû savoir montrer les atouts de Montpellier pour obtenir que la fête de la musique soit ici.
Ben écoutez, nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé, et elle m'a dit à la fin de, la fin de notre repas, elle m'a dit ben je reste à Montpellier. Et je lui ai dit très bien, ok, voilà. Nous avons sympathisé toutes les deux.
Voilà, c'était Daniela Lombroso et Hélène Mondrou au micro de Liliane Drey pour Radio Aviva. Le carnet de région, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toutes les radios qui y ont participé. La semaine prochaine, je vous le rappelle, c'est Radio Escapade qui prend le relais de la mise en forme de ce magazine. En attendant, très bonne journée à tous et à très bientôt.
Carnet de région.
Héros.
Aude,
Gare,
Héro,
Pyrénées-Orientales,
Gare,
Lozère,
Aude.
L'actualité en langue de Roussillon.